à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, bonjour. Présidentielle américaine du 3 novembre, ouverture lundi soir de la Convention démocrate. L'ancienne première dame, Michelle Obama, a dénoncé dans un discours ce qu'elle a appelé le manque total d'empathie du président sortant, le républicain Donald Trump, affirmant qu'il n'était pas, je cite, le bon président pour les États-Unis et appelant à élire M. Biden afin de mettre un terme au chaos provoqué, selon elle, par la présidence de M. Trump. « Je connais Joe, il fut un fantastique vice-président », a-t-elle dit au sujet de l'ex numéro 2 de son mari Barack Obama. « Il sait ce qu'il faut faire pour sauver une économie, vaincre une pandémie et montrer la voie à notre pays », a soutenu Michelle Obama. « Il dira la vérité et fera confiance à la science », a-t-elle encore estimé. Rien de très excitant, a ironisé M. Trump sur le discours pré-enregistré de l'épouse de son prédécesseur. Il a confirmé qu'il accepterait formellement la nomination du Parti républicain la semaine prochaine, en direct depuis la Maison-Blanche. M. Trump multiplie les déplacements et les attaques frontales contre celui qu'il affuble systématiquement du surnom moqueur de « Sleepy Joe », Joe l'endormi. Personne ne sera en sécurité dans une Amérique dirigée par Biden, a-t-il lancé depuis Oshkosh, dans le Wisconsin, à moins de 130 km au nord de Milwaukee, site officiel de la Convention virtuelle des démocrates. Le 3 novembre sera l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays, a estimé M. Trump, affirmant que Joe Biden voulait abolir l'American Way of Life et transformer les États-Unis en un pays socialiste ennuyeux. Au Mali, l'opposition a annoncé ce lundi de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec en point d'orgue l'occupation d'une place symbolique au cœur de Bamako. Diverses actions sont au programme de mardi à jeudi et le M5-RFP appelle ensuite à un grand rassemblement après la prière du vendredi sur la place de l'Indépendance, épicentre de ce mouvement lancé en juin. Les manifestants seront invités à camper sur la place jusqu'à samedi ou dimanche. D'autres manifestations sont également programmées les 25 et 26 août. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été entendu lundi par la police pour répondre à de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics, a appris l'AFP de sources sécuritaires. En Libye, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, en visite lundi à Tripoli, la capitale a mis en garde contre le calme trompeur qui règne actuellement dans le pays, plongé dans le chaos. Selon M. Maas, les deux partis, le GNA et le maréchal Khalifa Haftar et leurs alliés internationaux, continuent d'envoyer des armes dans le pays et campent sur leur position en vue d'un cessez-le-feu durable. Au Nigeria, les autorités ont annoncé lundi que le pays allait reprendre ses vols internationaux le 29 août dans le cadre d'une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Le pays le plus peuplé d'Afrique a fermé son espace aérien en mars pour lutter contre le COVID-19 qui a officiellement contaminé à ce jour 49 068 personnes et fait 975 morts. L'épidémie de coronavirus suscite des craintes de deuxième vague en Europe et sature les hôpitaux au Liban. Le COVID-19 a fait plus de 770 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi, avec plus de 170 453 morts et 5,4 millions de cas recensés, les États-Unis sont la nation la plus durement touchée devant le Brésil, le Mexique et l'Inde. suite de nos informations, au Soudan, environ 3000 personnes ont défilé lundi dans les rues de Khartoum pour réclamer justice et paix un an après la signature de l'accord de transition. Le point avec Nanit Talani.
Arborant des drapeaux et des banderoles sur lesquels ils réclamaient justice, paix, réforme du système sécuritaire ou encore mise en place d'un pouvoir civil, les manifestants ont marché au son des tambours jusqu'au siège du gouvernement à Khartoum. La plupart ont fait part de leur frustration liée à la lenteur dans la réalisation des réformes, un an après la signature de l'accord de transition conclu le 12 août 2019. Il prévoyait entre autres un transfert du pouvoir aux civils, des négociations de paix avec les mouvements rebelles et le redressement de l'économie exsangue. Les manifestants réclament aussi justice pour les quelques 200 personnes tuées pendant la révolte populaire qui a chassé du pouvoir le président Omar el-Béchir en 2019. Le premier ministre Abdallah Hamdok a affirmé que les négociations avec les mouvements rebelles sont sur le point de se conclure, ainsi que le remplacement des gouverneurs militaires par des civils dans tout le pays. Il a reconnu que les questions de justice, et surtout celles des victimes, restent l'une des tâches les plus importantes auxquelles ils sont confrontés. Hier, des affrontements ont éclaté quand les manifestants ont voulu remettre une lettre au chef du gouvernement. La police a tiré des grenades lacrymogènes et les protestataires ont brûlé des pneus avant de se disperser.
Les pays de la Communauté de développement des pays d'Afrique australe, ou SADC, ont mis lundi en soutien timide au Mozambique, quelques jours après la prise d'un port important par des djihadistes dans le nord du pays. Le point avec Michel Joseph.
Réunis en vidéoconférence pour la première fois, les chefs d'État de la SADC ont salué le Mozambique pour ses efforts contre le terrorisme. L'organisation régionale a exprimé sa solidarité, mais s'est refusée pour l'heure à intervenir militairement. La semaine dernière, des islamistes radicaux ont attaqué la petite ville de Mocimboa da Praia, dans la province de Cabo Delgado, dans l'extrême nord du Mozambique. Ils ont même pris contrôle pendant plusieurs jours du port de cette ville. Des djihadistes multiplient depuis 3 ans les attaques qui ont fait plus de 1500 morts dans cette province à majorité musulmane. Pour Liesle Lou Vaudran, du Centre d'études de sécurité à Pretoria, le Mozambique devra encore se débrouiller tout seul. Le Mozambicain Philippe Nyusi a pris lundi la présidence tournante de la SADC et le prochain sommet est prévu au Malawi en août 2021.
Rome avertit qu'il n'y aura plus de place pour les migrants illégaux en Italie. L'annonce a été faite à Tunis par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, à l'issue d'un entretien avec le président tunisien, Kais Saied. Abdourahman Dia.
Le chef de la diplomatie italienne a effectué lundi une visite de travail à Tunis en compagnie d'autres membres du gouvernement. Après une rencontre avec le président tunisien, M. Di Maio a indiqué que son pays est prêt à présenter toutes les aides nécessaires à la Tunisie pour lutter contre l'immigration illicite. Mais il n'est pas question de laisser en Italie ceux qui arrivent d'une façon illégale, a-t-il ajouté selon un communiqué de la présidence tunisienne. Les négociations entre l'Italie et la Tunisie se poursuivront pour trouver des formules de coopération bilatérale, a indiqué encore le ministre italien. La délégation italienne a exprimé son soutien politique et économique à la Tunisie, a ajouté encore le communiqué. De son côté, le président Saïd a affirmé de nouveau que les solutions sécuritaires ne permettent pas à elles seules de lutter contre l'immigration non organisée. L'arrivée de migrants en Italie a augmenté de près de 150% au cours des 12 derniers mois, la majorité arrivant de Tunisie.
La Minute Éco, John Linden.
Après 5 mois d'interdiction, l'importation des vêtements et chaussures d'occasion devrait reprendre au Kenya. Le Bureau des normes de sécurité et la protection des commerçants et des consommateurs contre le coronavirus s'est dit suffisamment outillé pour relancer les activités. L'interdiction de l'importation des vêtements et chaussures d'occasion a privé plus de 35 000 commerçants et revendeurs de leurs moyens de subsistance. Le nombre d'entreprises immatriculées au Bénin a enregistré une baisse de 5,6% en avril 2020, selon l'Institut national de la statistique. Sur la base des données collectées par la Direction générale des impôts, les immatriculations sont passées de 3 810 en mai 2019 à 2056 en avril 2020. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine se fera finalement à partir du 1er janvier 2021. L'Union africaine veut multiplier les discussions et négociations en ligne alors que l'ouverture des frontières reste encore timide. La zone de libre-échange continentale africaine devrait éliminer les tarifs douaniers entre 55 pays africains. Le continent, avec 1,3 milliard d'habitants, veut créer le plus grand bloc commercial du monde.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'Inter Milan, grâce à son duo offensif Lautaro-Lukaku, a dominé le Shakhtar Donetsk en demi-finale de la Ligue Europa 5-0 pour décrocher sa première finale européenne depuis 10 ans. Le club italien défiera vendredi le FC Séville du portier marocain Yacine Bono en finale dans le stade sans public de Düsseldorf. En Ligue des champions, le PSG d'Idrissa Gana Gueye et d'Éric Maxime Choupo-Moting affrontent Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions ce soir à 19h temps universel. Le PSG fera sans son gardien costaricain Keylor Navas blessé, mais enregistre le retour d'Arel Di Maria, suspendu contre Bergame. Kylian Mbappé, enfin au top de sa forme et prêt, pourra débuter la partie, à en croire son coach Thomas Tuchel.
Bien sûr, il a joué 30 minutes plus contre Atalanta. Pas de réaction avec les pieds. Maintenant, on a gagné 6 jours. Ça veut dire qu'il a gagné capacité. Bien sûr, il peut commencer. S'il peut jouer 90 minutes, on va décider après l'entraînement s'il entre ou s'il commence, mais on a toutes les possibilités.
Thomas Tuchel, entraîneur du PSG. Une statistique, c'est la première fois depuis 2005 que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, vainqueurs de 9 des 15 dernières éditions avec leurs clubs respectifs, ne sont présents dans le carré d'as de la Ligue des champions. Le FC Barcelone a limogé Quique Setién de son poste d'entraîneur des Blaugrana 3 jours après la terrible débâcle 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Il s'agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l'équipe première du Barça, qui se fera en accord avec l'actuelle direction technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours, a précisé le club catalan, qui prévoit, je cite, « des changements profonds ». Arrivé sur le banc du Barça le 13 janvier dernier, en remplacement d'Ernesto Valverde, Quique Setién n'aura été aux commandes de la formation Blaugrana que pendant 25 matchs pour un bilan mitigé de 16 victoires, 4 nuls et 5 défaites. En France, la pandémie de Covid-19 pourrait compromettre le début de la nouvelle saison de Ligue 1 après l'apparition de cas suspects parmi l'effectif de l'Olympique de Marseille. Hôte de Saint-Étienne, vendredi en ouverture de l'exercice 2020-2021, l'OM a révélé dimanche 3 nouvelles suspicions de contamination au Covid-19 après un premier cas suspect ayant conduit à l'annulation d'un match amical vendredi contre Stuttgart. Le club n'a pas révélé l'identité du premier joueur concerné, mais la presse a livré le nom de Jordan Amavi. Sur Twitter, le défenseur français a dit vouloir revenir au plus vite. Si ces cas étaient confirmés, cela porterait à 4 le nombre d'éléments touchés par le virus, soit le plancher à partir duquel la Ligue de football professionnel peut décider d'un report de match.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous êtes en compagnie d'Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ensemble du territoire nigérien, à l'exception de Niamey, la capitale, est formellement déconseillé aux ressortissants français. C'est une décision du Quai d'Orsay après l'attaque terroriste du 9 août dernier dans la réserve touristique de Kouré, qui a coûté la vie à 6 humanitaires français et à 2 Nigériens. Ce classement du Niger comme une zone dangereuse ne passe pas chez beaucoup de Nigériens. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Ils ont fini de piller toutes nos richesses. Ils ont fini de nous exploiter. Maintenant, ils pensent que le Niger est classé rouge. Le Niger est un pays dangereux. Le Niger est un pays à risque.
Pour la majorité des citoyens, il y a dans cette décision des autorités françaises une certaine ingratitude vis-à-vis du Niger.
Et je pense que c'est quand même pas une reconnaissance à la hauteur des efforts des autorités que la France vient de démontrer.
Il y a eu une attesse. Il y a eu Chinagoré, il y a eu tout ce qui s'est passé à Difa, tout ce qu'on a vécu à Tango-Tango, et ça n'a pas eu à les alerter. Donc, quand leurs citoyens aussi en meurent, alors à ce moment, ça, ce sont les extraterrestres qui sont venus en vous. Si le Niger est dangereux, vraiment, on n'a invité personne ici. La France a besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin de la France. On peut vivre sans la France, mais la France ne peut pas vivre sans nous. C'est important. Une ampoule sur trois qui s'allume en France, c'est l'uranium du Niger. S'il considère qu'on est rouge, pour ce qui concerne le gouvernement français, son ambassadeur plus les autres, out. Il n'a qu'à partir. On n'a pas besoin. C'est tout.
Le gouvernement n'a officiellement pas encore réagi, ce malgré tous les appels et recommandations qui lui ont été faites dans ce sens, notamment par des institutions constitutionnelles de la République comme la Commission nationale des droits humains.
Ce qualificatif de zone rouge, dénié de tout fondement, isole le Niger du reste de la communauté internationale, tourne son image, mais a également un impact négatif sur la jouissance et l'effectivité des droits humains. Que la Commission nationale des droits humains, CNDH, recommande au gouvernement d'exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Le cas échéant, le gouvernement doit s'user de tous les moyens légaux afin d'obtenir réparation.
Plus de 10 jours après, l'attaque de Kouré n'a toujours pas été revendiquée. Rien non plus n'a filtré des recherches des enquêteurs nigériens et français sur le dossier. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le climat sécuritaire se dégrade de plus en plus au Burkina. Assassinats ciblés, attaques récurrentes perpétrées par des hommes armés non identifiés, le pays est cerné par les groupes terroristes. Alors que les zones qui bordaient les frontières maliennes étaient les plus dangereuses, la France vient de placer l'ensemble de la région de l'Est et les territoires frontaliers du Niger, du Bénin et du Togo comme zone rouge, déconseillée à ses ressortissants. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
La situation sécuritaire au Burkina Faso semble à son pire niveau depuis le début des attaques terroristes en 2016. Les attaques armées sont quasi quotidiennes. Le climat d'insécurité fait que la destination Burkina Faso est déconseillée par les chancelleries internationales, notamment la France.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cela est présenté.
Paul Miki Rwamba est journaliste et rédacteur en chef de la radio Ouara FM.
Il y a quelques mois, cela avait suscité une vive réaction de la part de l'opinion publique burkinabé. Mais moi, je fais remarquer également que c'est pas un message qui s'adresse prioritairement aux Burkinabés. C'est un message qui s'adresse, de mon point de vue, aux Français. C'est la France qui communique avec des Français pour déconseiller la destination Burkina Faso. Sinon, effectivement, malgré les attaques terroristes ici au Burkina, il y a de la vie. Les gens se lèvent tous les matins à aller travailler.
Pourtant, face à cette insécurité, ce sont les populations qui payent le lourd tribut. Malheureusement, les réponses données par le gouvernement ne les rassurent pas. Siaka Koulibaly, analyste politique.
C'est une réalité bien connue de tous que le Burkina Faso est dans une spirale d'insécurité grandissante. On constate également que les autorités, notamment celles de la défense et de la sécurité, faisaient beaucoup d'interventions publiques pour expliquer les stratégies qui sont mises en place afin de résorber la spirale terroriste. Mais de plus en plus, les attaques dues à ces groupes-là sont devenues un trait banal et passent presque inaperçues. Et les populations se demandent quand est-ce que ces services pourront venir à bout des groupes terroristes et pacifier le pays.
Aux attaques terroristes se sont ajoutés des conflits intercommunautaires où l'on s'en prend aux Peuls comme des terroristes, une amalgame régulièrement dénoncée par les organisations des droits de l'homme. Mais la stigmatisation persiste selon les observateurs.
Comment ça se fait que les jeunes Peuls qui veulent s'engager comme volontaires, on refuse de les recruter pour l'unique raison qu'ils sont Peuls?
Mélégué Maurice Traoré, historien, ancien ministre et homme politique.
Vous ne pouvez pas juste suspecter quelqu'un à tout là-bas de son ethnie, c'est grave. D'ailleurs, ces jeunes Peuls, s'ils sont décidés à aller en justice, vous aurez des problèmes parce que c'est de la ségrégation.
Vigilance rouge ou pas, le Burkina Faso peine à sécuriser son territoire et la colère monte de plus en plus sur les réseaux sociaux où beaucoup demandent au gouvernement de faire mieux que de proférer des condamnations à chaque attaque armée. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, c'est parti pour les conventions politiques marquant la dernière ligne droite dans la campagne pour la présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Joe Biden acceptera cette semaine la nomination du Parti démocrate lors d'une convention essentiellement virtuelle à cause de la pandémie de COVID-19. La semaine prochaine, le président Trump sera à son tour officiellement investi par les républicains. Nous ferons le point sur la politique américaine à un peu plus de 2 mois de la présidentielle. Ce sera ce jeudi 20 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Nigeria, plus d'un million de candidats ont commencé les épreuves du certificat de fin d'études secondaires, l'équivalent du baccalauréat. L'examen a été reporté pour la première fois en avril à cause de la pandémie de COVID-19. Les candidats de 5 pays anglophones, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Gambie et Liberia, font les épreuves. Plus de 19 000 centres sont établis à travers le Nigeria et d'importantes mesures sanitaires sont mises en place à Abuja. Reportage de Gilbert Tamba dans l'un des centres d'examen de la capitale fédérale Nigeria.
Le lavage des mains, la prise des températures, le port obligatoire du masque facial, la distanciation sociale sont autant de mesures à respecter dans les salles d'examen pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Cette période d'examen s'étend jusqu'au 12 septembre prochain. Le Nigeria a enregistré jusqu'à lundi 17 août 2020 plus de 49 000 cas confirmés de COVID-19, 975 décès et plus de 36 000 guéris. Efianyi Emegwawo est chargé du suivi et du contrôle du déroulement des examens à Total Charles Model School, converti en un centre d'examen.
À ma qualité de chargé du contrôle des examens, je dois m'assurer que les candidats sont placés selon les directives du NCDC en respectant la distanciation sociale. Si vous partez dans les salles d'examen, vous verrez que les tables qui prenaient 3 élèves, il n'y a qu'un seul candidat et la distance de 2 mètres est visible.
Autre condition à remplir pour les 150 candidats de ces centres d'examen, le nom de chaque candidat doit figurer sur la liste nationale pour avoir accès à la salle d'examen. Après 4 mois à la maison, les candidats ont eu juste 2 semaines pour préparer ces examens, ce qui rend la situation un peu difficile pour certains candidats comme Owabo Fevo.
Je prie pour que tout se passe bien parce que nous n'avions pas eu assez de temps pour nous préparer. Donc nous tous, nous prions et nous devons juste tout mettre dans les mains de Dieu. Comme le sujet de mathématiques, c'est l'une des matières très difficiles. Souvent, nous venons les samedis pour réviser les maths.
D'autres ont profité du système d'enseignement en ligne mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour préparer les examens. Agabi Blessing, candidate, est certaine que tout se passera bien.
Nous avions eu l'opportunité durant les 4 mois de confinement pour étudier. En plus, notre école avait mis en place une plateforme pour nous permettre d'étudier aussi. C'était comme si nous avions un temps libre pour étudier.
C'est aussi le cas pour George Peace, une autre candidate arrivée tôt ce matin pour attendre le lancement de la première épreuve des sciences mathématiques du VOAEC 2020.
Nous avions passé 4 mois à la maison. Pour ceux qui sont intelligents, c'était une opportunité pour réviser. Ce temps leur a permis aussi de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas faites en classe. Donc, durant ce temps, je faisais ces recherches.
Le Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest, WAEC, a 45 jours après l'examen pour publier les résultats du WAEC 2020-2021. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Cela fait 100 ans, jour pour jour, que les Américaines ont obtenu le droit de vote. Le 19e amendement de la Constitution présenté au Congrès en 1878 aura mis plus de 40 ans pour être adopté et ratifié par les trois quarts des États le 18 août 1920. Deborah Bloch revient sur l'histoire du droit de vote des femmes américaines. Le récit est de Nathalie Barge.
Les féministes américaines ont ardemment défendu le droit de vote des femmes aux États-Unis au cours d'une longue et difficile lutte qui s'est étendue du 19e au 20e siècle. À l'instar des suffragettes européennes, elles ont subi les sarcasmes et ont fait l'objet de maintes caricatures dans la presse au début de leur combat. Andrea Descoteur, directrice intérimaire du Parc national historique des droits des femmes.
Il y a eu beaucoup de mépris et de ridicule envers ces femmes.
La première convention sur les droits des femmes s'est tenue en 1848 dans une église de Seneca Falls dans l'État de New York. Au cours de ce rassemblement, les délégués ont rédigé un document appelant au droit de vote des femmes.
Elles ont dit « Tous les hommes et les femmes sont créés égaux », une devise empruntée à la Déclaration d'indépendance à laquelle elles ont apporté une modification très importante en ajoutant « et les femmes ».
En 1848, la ségrégation raciale était en vigueur aux États-Unis. Les femmes noires ont eu un double défi à relever pour le droit de vote. Lutter contre les stéréotypes sexistes et raciaux. Martha Jones, professeure d'histoire à l'université Johns Hopkins.
À travers leurs propres organisations, associations anti-esclavagistes, conférences d'églises et organisations de défense des droits civiques, les Africaines américaines ont développé leur propre mouvement au cours des 2 derniers siècles.
Alors que le rôle des femmes évoluait au début du XXe siècle, la nouvelle génération a poursuivi la lutte en intensifiant les manifestations et en organisant des défilés, des veillées silencieuses et même des grèves de la faim. Hélène Carole Dubois, historienne du droit de vote des femmes.
À cette époque, elles se posaient sur des petits tabourets aux portes des usines à l'heure du déjeuner et prononçaient des discours populaires sur le droit de vote des femmes afin de rallier un public masculin.
En 1918, le président Woodrow Wilson a changé sa position pour soutenir le 19e amendement qui a été ratifié 2 ans après. Cependant, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes noires se sentent exclues du processus électoral. Martha Jones, de l'université Johns Hopkins.
Elles font face aux formalités d'inscription, à la fermeture de bureaux de vote et sont exclues de manière disproportionnée de ces listes.
Pour Eleanor Smill, présidente de la Fondation de la majorité féministe, ces inégalités peuvent être résolues par le 27e amendement de la Constitution sur l'égalité des droits entre hommes et femmes, introduit pour la première fois au Congrès en 1923 par la féministe Alice Paul.
L'amendement proposé dit que vous ne pouvez pas discriminer sur la base du genre. Et cela s'appliquerait au gouvernement fédéral, à toutes ses politiques et aux 50 États.
Un siècle après l'obtention du droit de vote des femmes, la lutte des Américaines pour l'égalité entre hommes et femmes est loin d'être terminée à seulement quelques mois des élections de novembre aux États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée